Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Le morceau manquant de votre casse-tête. Le petit détail de plus à votre information. La valeur ajoutée à votre écoute. Son nom, Guillaume Lavoie.
Restons sur le thème de la Chine, cette idée de, vous avez vu, l'espion chinois qui avait réussi à se faire embaucher chez Hydro-Québec, bizarrement en parlant pas français et en ayant un anglais approximatif, eh bien, il avait été arrêté et accusé d'espionnage. C'est pas des accusations qu'on voit souvent au Canada. Et là, il est remis en liberté. Alors, quelles sont les conséquences d'une remise en liberté temporaire? On le comprend. Parlons-en avec Michel Junot-Katsuya, ancien chef du bureau Asie-Pacifique au SCRS. Ça, c'est les services secrets canadiens. Bonjour, M. Junot-Katsuya.
Bonjour, Guillaume.
Merci beaucoup d'être avec nous. Michel, alors, la grande question, là, c'est comment c'est possible qu'on est accusé, c'est quand même pas là, d'un petit larcin, d'espionnage, que l'on le remette en liberté, et on imagine les gens qui nous écoutent qui se disent, ben la première chose qu'il va essayer de faire, c'est de se sauver, là.
Oui, excellente question. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le système judiciaire, le baromètre que le juge va regarder, va utiliser pour laisser une personne retrouver sa liberté temporaire, c'est la sécurité du public. Il se pose la question, est-ce que la personne représente un danger pour la sécurité du public? Je vous donne un exemple facile. Un meurtrier représenterait un danger pour la sécurité publique ou qu'une personne suspectée d'avoir commis un meurtre. Un conjoint très violent pourrait représenter un danger pour le public. Dans le cas présent, c'est un espion. Un espion, et j'aimerais peut-être apporter une petite précision, un espion qui est arrivé à Hydro-Québec parce que M. Couillard a signé une entente avec la Chine pour faire justement un développement avec Hydro-Québec de ces fameuses batteries-là. Donc, à quelque part, on a forcé un peu l'arrivée de ces échanges avec des techniciens, des ingénieurs ou des chercheurs chinois à cause d'une entente un peu naïve qui a été faite par nos gouvernements. On pourrait revenir justement sur cette naïveté qui a prôné très longtemps chez tous les gouvernements, toutes couleurs confondues.
Oui, on se rend compte qu'à trop ouvrir le kimono, faut pas se surprendre d'avoir attrapé la grippe, là.
Oui, effectivement, c'est une même si le kimono est japonais. et on ira ici effectivement chercher le trouble un tout petit peu parce qu'on a amené le loup dans la bergerie, ni plus ni moins. Parce que trop longtemps, les gouvernements, encore une fois toutes couleurs confondues, pendant des décennies, ont entretenu une fausse illusion envers la Chine, qui a à travers ses agents d'influence réussi effectivement à chuchoter dans toutes les oreilles des gouvernements passés que c'était vraiment le bonanza, c'était la terre promise ou la gloire promise en allant travailler avec la Chine, alors que la Chine, elle, comprenait très, très bien de ce qu'elle faisait, elle allait réussir à pouvoir, ni plus ni moins, voler des technologies à son avantage.
Mais Michel Junot-Katsuya, revenons sur les critères pris en compte lorsqu'on remet quelqu'un en liberté. Je comprends très bien, on comprend l'idée de la sécurité du public. Hein. Si c'est un tueur en série qui a une pulsion meurtrière, ben on est mieux de le garder en dedans pendant l'ensemble des procédures judiciaires qu'un criminel à col blanc. On comprend ça. Mais là, c'est un espion. Est-ce que, parce qu'on imagine qu'une fois qu'il est en liberté, il pourra à tout le moins plus facilement communiquer avec sa mère patrie. Comment est-ce qu'on va gérer ça? Parce que évidemment qu'il est là le danger.
Oui. En théorie, le juge peut ordonner aussi certaines prescriptions durant l'audience. C'est-à-dire, à titre d'exemple, remettre son passeport, porter un bracelet électronique, se rapporter à des heures et des journées précises à la GRC, qui sont le corps policier qui l'a arrêté et qui l'ont amené en cours. Donc, des prescriptions comme ça qui doivent, en théorie, contrôler malgré tout ses allées et venues, bien qu'il ait le droit de retourner vivre à la maison pendant un certain temps.
Et quelles conditions est-ce qu'on a imposées là, à notre James Bond des temps modernes?
Ben là, au moment où on se parle, ces conditions n'ont pas été transmises, du moins moi je les ai pas obtenues. ouvertement. Alors, on ne connaît pas exactement quelles sont ces prescriptions ou ces ordonnances qui ont été imposées par le juge au moment où...
Mais on pourrait imaginer confiné à résidence, bracelet électronique, communication monitorée par, j'imagine, le SCRS ou la GRC?
Ça, c'est la chose la plus délicate parce qu'il faut obtenir à ce moment-là un mandat de la Cour, un deuxième exercice maintenant, qui va amener soit la GRC ou soit le SCRS à pouvoir autoriser ou avoir l'autorisation, devrais-je dire, de faire la supervision de ces communications, ce qui semblerait moins commun et très, très, très exceptionnel.
Juste pour, parce que j'imagine que le public qui nous écoute est familier, ne serait-ce qu'à cause d'Hollywood, le FBI, qui est souvent un peu la GRC au Canada, on imagine la CIA, mais ça, c'est ce qui se passe à l'étranger. Expliquez-nous, où est-ce que le SCRS est dans tout ça? Et dans un cas comme dont on a devant nous, quel est le rôle du SCRS? Quel est le rôle de la GRC? Qui a fait l'accumulation des preuves? Parce que, est-ce que la GRC fait de l'espionnage elle-même? Comment ça marche?
Ah, intéressamment, Guillaume, vous touchez une corde sensible sans peut-être le savoir. Cette fameuse relation et le rôle que le SCRS joue dans l'équation. Ce qu'il faut, ce petit retour sur l'histoire très, très rapide. 1984, on a créé le SCRS en amputant de la GRC le groupe qui faisait la sécurité nationale et en l'amenant à créer le nouveau service de renseignement. Alors, moi, j'y étais à cette époque-là. Vendredi soir, j'étais de la GRC au service de sécurité. Le lundi matin, j'étais au SCRS. Et ce que l'on a voulu faire à ce moment-là, et c'était la décision du gouvernement de M. Trudeau père de l'époque, c'était vraiment de scinder cette autorité qu'avait la GRC, de pouvoir enquêter sur les questions de sécurité nationale, mais qui étaient des policiers. Et comme tout bon policier, lorsqu'ils ont reçu des subpoénas pour apparaître à la commission Keb et éventuellement à la commission McDonald, ben ils ont révélé, ils ont témoigné honnêtement comme ils devaient le faire. Mais ça a révélé aussi jusqu'à quel point il y avait une relation quand même assez proche avec le gouvernement central, le gouvernement fédéral. Lorsqu'on a voulu créer le SCRS, on a retiré tous les pouvoirs policiers et l'ordre de marche a été « Vous faites tout ce que vous pouvez, mais vous ne devez jamais aller témoigner en cours. » Et lorsqu'il y aura nécessairement une poursuite criminelle éventuelle, vous allez donner ça à la GRC. Mais voilà. Le SCRS joue très mal dans la cour de récréation avec les autres. Ils partagent mal ses jouets. Et particulièrement, lorsqu'on a besoin d'aller témoigner, ben on veut s'arranger pour ne pas avoir à témoigner. Donc, toute la responsabilité repose sur les épaules de la GRC, qui doit, selon les standards de notre système judiciaire canadien, rencontrer la preuve et faire monter le dossier afin de prouver en cours hors de tout doute raisonnable. Et ça veut sous-entendre aussi que si vous avez des informations qui vous viennent d'une source en particulier, vous devez révéler à la défense l'origine de la preuve et l'origine
Et là, on voit toute la quadrature du cercle, parce qu'on peut imaginer que, sans tomber dans les romans d'espionnage les plus scabreux, que cette preuve-là, elle traînait pas par terre ou elle traînait pas sur un bureau, là. C'est pas une enquête policière classique. Comment est-ce qu'on fait à ce moment-là pour faire des accusations dans un régime de droit comme ça doit être? On a l'obligation de dévoiler nos preuves à l'accusé sans dévoiler des manières qui sont presque des secrets d'État sur comment est-ce qu'on fait pour avoir ces dites informations.
Exactement. Et le SCRS va tout faire, bec et ongles, pour résister à présenter toute preuve ou donner toute preuve qui pourrait éventuellement être dévoilée par la GRC de par l'obligation dont vous venez de parler. Et dans cette perspective-là, ben, on va essayer de minimiser son implication ou simplement ne rien donner, tout simplement, pour ne pas avoir à témoigner, comme on disait il y a un instant.
Si jamais, pour préserver la sécurité nationale, il fallait donner moins de choses, est-ce qu'il y a un risque, est-ce qu'il y a péril dans le cas du procureur, parce que là, il n'y aura pas assez de preuves, et notre James Bond des temps modernes pourrait s'en sauver?
Absolument. Dans le cas précis, ça risque moins d'arriver, compte tenu du fait que la détection a été faite par le superviseur de l'individu en question qui s'est aperçu qu'il y avait des publications qui traînaient sur son bureau et quand il a vu les publications en question, il a bien réalisé que c'était des informations qui avaient été prises de l'Hydro-Québec. Il a informé la sécurité interne qui éventuellement a informé la GRC. Donc, l'implication du SCRS dans ce dossier particulier a été probablement minimale. Mais si on revient dans l'histoire, il y a un autre cas où ça a failli arriver de cette manière-là, c'est le cas d'Ahmed Rassam, le fameux bonhomme qui a été arrêté en l'an 2000, qui a été arrêté en rentrant aux États-Unis avec une voiture chargée d'explosifs. Ben, lorsque le SCRS est allé témoigner en cour, ils avaient détruit des enregistrements et des preuves afin de ne pas avoir à les présenter. Et le juge a pété un plomb, le juge américain. Mais fort heureusement pour le SCRS, dans les jours qui ont suivi, Ahmed Rassam a passé une entente avec le FBI et le dossier s'est terminé là. Aujourd'hui, Ahmed Rassam purge une sentence à vie en prison. Mais le juge avait vraiment courassé le SCRS d'avoir détruit des enregistrements, des preuves, ce qui nous rappelait évidemment Air India. Alors, dans cette perspective-là, on peut voir que les réflexes continuent. Et alors, on va sauter un troisième cas, qui est le cas de Jeffrey Delisle, un espion canadien qui était à la solde des services secrets russes militaires, qui a été arrêté en 2012. Eh bien, encore une fois, le SCRS avait très peu collaboré avec la GRC, forçant la GRC à recommencer son enquête à zéro, alors qu'ils avaient été informés plusieurs mois à l'avance par le FBI. Donc, on peut voir qu'on a un problème. Et là, il y a quelque chose sur lequel le gouvernement va devoir plancher pour pouvoir réajuster, recalibrer justement cette collaboration qui existe entre les deux agences, parce que de toute évidence, il y a quelque chose de dysfonctionnel.
Oui, mais j'ai l'impression qu'on va devoir s'en reparler parce que peut-être qu'au-delà des procédures judiciaires, on pourrait peut-être imaginer une solution ou un sauf-conduit diplomatique où à la fin, on se trouve une manière de retourner un problème ici en Chine en échange d'une négociation, probablement derrière des portes closes, ce qui est l'endroit favori où le SCRS et la diplomatie probablement se rencontrent. Michel Junot-Katsuya, ancien chef du bureau Asie-Pacifique au SCRS, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Toujours un plaisir, Guillaume. À la prochaine.
Au plaisir.